Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à Fabien qui a demandé à recevoir aujourd'hui le baptême. Bienvenue au professeur Olivier Abel qui prêchera tout à l'heure. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous qui hier était peut-être à la noce ou qui vivait un temps de deuil. Bienvenue à vous, fidèles d'entre les fidèles ou simplement de passage, venus goûter, savourer un temps où la parole est au cœur de notre relation avec l'Éternel. Oui, à nous tous qui sommes venus pour un face-à-face avec l'Éternel, c'est de ce face-à-face que nous recevons notre espérance, c'est de ce face-à-face avec l'Éternel que nous recevons la grâce, la joie et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter dans le petit livret liturgique, le premier cantique, Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Dieu avec les mots du psaume 18. Je t'aime Seigneur, toi qui es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit le Seigneur, et tu élargis le chemin sous mes pas, mes pieds ne chancellent point. Parce que tu m'as mis au large, tu m'as délivré à cause de ton amour pour moi. Et je vous invite, frères et sœurs, à prolonger cette louange avec un autre psaume que nous allons chanter, le psaume 25. Nous chanterons les strophes 1, 2 de ce psaume 25 dans le psautier français. Prenons place. C'est dans le livre du prophète Jérémie que je vous propose d'entendre quelques paroles qui nous permettent justement de trouver un peu d'orientation. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses, nous dit le prophète Jérémie, notamment en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Le temple de l'Éternel. Vous voyez à quel point cette parole s'adresse à nous. qui avons tendance à dire « c'est ici le temple de l'Éternel ». Si vraiment, ajoute-t-il, si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang de l'innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. » Nous nous recueillons avec humilité dans la prière. Bien souvent, nous avons préféré nos désirs à l'espérance que suscitait notre face-à-face avec l'Éternel. Nous avons travaillé pour nous plus que pour le royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes en oubliant allègrement d'aimer notre prochain. Bien qu'ayant à notre disposition les paroles de vie, celles qui nous permettent de nous lancer dans la vie, nous avons peu changé. Nous nous sommes peu élancés et nous nous sommes souvent repentis en vain. Force est de constater que nous avons besoin de mieux nous connaître. Nous avons par-dessus tout besoin d'être aimés en dépit de tout pour parvenir à changer notre volonté, pour parvenir à l'ajuster, à la rendre plus humaine. Oui, nous reconnaissons avoir besoin d'être pardonnés pour redonner à notre vie l'éclat que nous propose l'Évangile. Amen. Et à nouveau, dans le livre du prophète Jérémie, quelques paroles qui peuvent faire écho à notre prière. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonne leurs fautes et je ne me souviens plus de leurs péchés. » Frères et sœurs, levons-nous pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Thank you.
vous pouvez prendre place. Avec grande joie, donc, nous accueillons ce matin Fabien Dufoulon, qui a demandé le baptême. Fabien, vous demandez le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et vous manifestez ainsi le désir de devenir membre de son Église, de cette large communauté que forment tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ, au-delà des églises particulières. Et justement, c'est une joie pour nous que vous ayez choisi notre Église particulière pour intégrer l'Église universelle. Ce baptême est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, Fabien. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, et rien ne vous privera de cet amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Mais dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer explicitement dans son alliance, aujourd'hui, Fabien, vous répondez à cet amour de Dieu en demandant le signe du baptême. À celui qui vous dit « Tu es mon fils bien-aimé », vous lui répondez dans votre cœur d'abord, et puis aujourd'hui, dans son Église, « Tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux ». Vous vous êtes préparé depuis longtemps à recevoir ce baptême, par une recherche personnelle depuis une dizaine d'années, lisant la Bible, priant, cherchant à découvrir, aussi par l'histoire de l'art, l'histoire de la Réforme, l'histoire de France. Vous avez découvert l'oratoire d'abord par le site internet, d'après ce que vous m'avez dit, en prédication vidéo, en ouvrant ainsi la porte déjà de cette église. Et puis nous avons eu la joie donc de vous accueillir depuis quelques mois ici pour ce culte où vous venez quand votre travail vous le permet. Parce que c'est vrai que certains travaillent le dimanche et donc c'est pas toujours facile de trouver son chemin, mais voilà, c'est aussi cela la force, j'allais dire, de la foi protestante, c'est que même si on n'est pas là tous les dimanches, eh bien, on est d'abord avant tout chrétien dans l'intimité de sa chambre, de son cœur, de sa prière et de sa propre lecture de la Bible. Nous avons ici plutôt donc un lieu d'entraînement, de stimulation pour notre foi et notre réflexion avec les autres. Eh bien, tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la joie et à la reconnaissance, mais ce chemin est bien sûr ouvert devant vous et le Seigneur sera avec vous tous les jours pour accompagner votre marche. Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Fabien. Tu l'as accueilli dans ton alliance. Que ce baptême soit vraiment pour nous le signe de ses dons, de cette grâce invisible, de cet amour qui nous porte au-delà de tout. Qu'avec le Christ, Fabien devienne jour après jour de plus en plus vivant et source de vie, de foi, d'amour et d'espérance. Oui, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Désormais, Fabien, chaque jour, votre baptême vous redira que Dieu vous accompagne sur le chemin de votre vie. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, à approfondir cette communion avec Jésus-Christ en qui vous est offerte la joie d'une vie consacrée et d'un cheminement confiant dans la grâce et la présence de Dieu. Donc, je propose de vous approcher maintenant pour être baptisé. Fabien, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Fabien, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous sanctifie. Il vous accompagne sur la route que vous choisirez. Il vous soutiendra si vous en avez besoin. Il vous réveillera quand il faut. Il questionnera vos réponses et répondra à vos interrogations. Dieu vous conduira sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors, en réponse à l'amour de Dieu, vous pouvez confesser votre foi. D'abord, la confession de foi obligatoire chez nous, c'est-à-dire le point central, je crois, qui peut réunir, on peut le dire absolument, tous les chrétiens de toutes sortes, cette confession de foi de l'Église universelle.
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Et nous vous invitons maintenant à vous unir à cette déclaration de foi qu'a préparée Fabien pour nous ce matin et qui sera notre confession de foi. Donc je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur et de la foi à ces paroles de croyance chrétienne.
Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible. Il nous a donné la vie par amour, afin qu'à notre tour nous aimions et rendions ainsi témoignage de son existence. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu auprès duquel il nous conduit. Par ses paroles et par ses actes, il nous rassure dans le doute et l'adversité. Par sa mort et par sa résurrection, il nous donne l'espoir de la vie éternelle. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de Dieu qui fait rougir les braises de notre foi, lumière de Dieu qui nous guide au milieu des ténèbres. Cette grâce qu'il nous accorde nous rend libres et confiants, car nous savons que nous ne manquerons de rien.
Merci beaucoup. En Dieu nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors pour marquer que le baptême et la profession de foi sont plus un point de départ qu'un point d'arrivée, un point statique, nous vous proposons donc des engagements qui marquent une ligne de vie, bien sûr, qui peut nous rassembler tous. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur, et c'est s'engager à le suivre, car il est notre Seigneur. Fabien, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain comme vous-même ?
Oui, que Dieu me soit en aide.
Fabien, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne et plus particulièrement comme membre de l'Église réformée de l'Oratoire. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions franchement pour Fabien que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est la joie dans le ciel pour ce moment de foi, de confiance en toi. Bénis-le pleinement, ô Éternel. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage de foi. Aide-nous à faire nôtre ce témoignage de foi. Et qu'ainsi nous puissions nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, nous approcher sans cesse plus de toi, être plus confiants dans cette dynamique de vie que tu nous proposes, que tu nous offres, que nous soyons plus en recherche d'une intelligence de la foi aussi, et que nous puissions être de plus en plus au service des autres, en vérité. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Un grand merci, Fabien. Merci.
Chers amis de l'oratoire, d'abord je voudrais dire un mot de gratitude d'être encore ce matin avec vous en apportant mon modeste métier de philosophe. C'est donc un philosophe, encore une fois, qui fera la méditation sur l'écriture, les Écritures ce matin. J'ai choisi comme thème de méditation la question de la ressemblance. Et vous verrez dans les textes bibliques que je vais lire une tension entre deux traditions, entre deux logiques différentes qui traversent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est cette tension qui va nous intriguer. Je lirai d'abord au livre de la Genèse, un tout petit passage, chapitre 1, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. » Et en 5, de 1 à, excusez-moi, à 3, « Voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa. » Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et lui donna le nom de Seth. Nous lirons ensuite dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets... J'arrive pas à lire parce que c'est une Bible trop petite. James me disait, c'est pas très théâtral ta Bible, il a raison. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est d'abord au chapitre 22, versets 18 à 22. Jésus, connaissant leur perversité, riposta « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier et il leur dit « De qui est l'effigie que voici ?» Et la légende « De César, » répondit-il. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris et le laissant, ils s'en allèrent. Et enfin, toujours Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et les versets 37 à 40. « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous chanterons dans le cantique. Excusez-moi, je vous le cherche. Bon, je vous le dis, il n'est pas. C'est le cantique numéro 308, les strophes 1, 2 et 5. Oui, il est là. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations et nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Je présente une excuse d'abord, c'est que d'habitude, quand je fais une conférence, un cours, j'ai toujours des notes devant moi, j'ai jamais un texte. Et là, comme je veux vous laisser un texte tout de suite, parce que je sais que ce que je dis est parfois un peu dense, alors j'ai mon texte et je vais être un peu tenu par ce texte. Alors, je dirais d'abord que la faculté de voir les ressemblances, nous l'exerçons tous les jours. Comme M. Jourdain, faisant de la prose sans le savoir, et c'est bien encore cette faculté que j'ai mise en œuvre, en rapprochant les textes de la Genèse et de Matthieu, qui traitent tous deux de l'image de Dieu, ou de l'Exode et de Matthieu, qui traitent tous les deux de l'impossibilité de s'en faire une image. Genèse insiste sur l'importance de la ressemblance, Exode insiste sur l'impossibilité de se faire une ressemblance. Matthieu 22 s'appuie sur l'idée qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à sa ressemblance, quand Matthieu 25 pointe l'incognito, l'impossibilité de retenir le visage du Christ. Oui, les thèmes, les termes, les figures portées par ces textes ont un air de ressemblance. Dans le même temps, Matthieu ressemble à la fois à la Genèse et à l'Exode. Il fait voir la proximité entre deux figures qui au départ ne se ressemblent pas. Comme un enfant ressemble à la fois à son père et à sa mère, Madame Genèse et Monsieur Exode ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petit Matthieu. Bon, réfléchissons. Nous avons cette faculté qui, justement, à la réflexion, lui semble magique, en même temps que tout ordinaire, de voir les ressemblances, de reconnaître les formes, par exemple une croix, un carrefour, les sons qui constituent nos mots, un paysage, un visage. Sans cette faculté quotidienne, nous serions perdus. Mais cette faculté qui nous permet de reconnaître quelqu'un de très loin, parmi d'autres, à son profil, presque à son ombre sur un mur, à son allure, est assez aiguisée pour nous permettre de distinguer un visage pourtant presque identique et de dire « Ah non, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. » Comme dans Le Prince et le Pauvre, pour la mère à qui on rapporte celui que tout le monde croit être son enfant, deux minuscules détails suffisent. La faculté de voir le semblable et le dissemblable nous fait ainsi sans cesse travailler à faire du proche et à faire du lointain, à penser l'universel, car tous les êtres quelque part se ressemblent, et la ressemblance est divine, et à penser la singularité, car chaque être est unique, et même deux gouttes d'eau sont un peu différentes. Elle nous fait voir le même dans l'autre, et l'autre dans le même. Je voudrais ici, prolongeant l'écho de nos textes, faire l'éloge conjoint de la ressemblance et de la dissemblance. Nous remarquons qu'un enfant ressemble à son père et à sa mère. Ce n'est pas seulement que les chiens ne font pas des chats et que le blé ressemble au blé. L'extraordinaire précision par laquelle un enfant retient exactement la moitié génétique de chacun de ses parents détermine une fabuleuse ambiguïté de lecture. On peut voir le visage selon la ressemblance au père ou selon la ressemblance à la mère. Mieux, Proust fait cette remarque dans La recherche du temps perdu, que la double ressemblance de Gilberte adolescente avec son père Swann et avec sa mère Odette, eh bien, chez elle, telle expression du visage qui lui vient de sa mère exprime un genre de sentiment qui lui vient plutôt de son père. Oui, les ressemblances sont vertigineuses dans leur recroisement. S'il n'y avait plus de ressemblance, il n'y aurait plus de filiation, nos sociétés humaines s'écrouleraient. Or, la ressemblance, cela se construit aussi par la parole, par l'adoption, cela s'interprète. Les enfants des mêmes parents peuvent interpréter différemment la ressemblance qui leur est donnée. La ressemblance n'est pas seulement généalogique. Par elle, tous les visages qui se croisent dans la rue se tendent une sorte de miroir mutuel. C'est parce que les figures, les comportements que nous rencontrons ressemblent aux nôtres, ou en tout cas à ce que nous connaissons, que nous pouvons être en confiance. Voir les ressemblances, c'est mettre l'autre et soi-même en confiance. Parfois, on a le sentiment que cette faculté d'empathie avec les autres nous manque aujourd'hui. Que se passerait-il si nous étions peu à peu privés de cette faculté de voir nos semblables comme des semblables, de nous éprouver nous-mêmes comme semblables à d'autres? Que se passerait-il si nous perdions cette faculté de rapprochement, cette capacité de nous rendre proches, de nous fier aux similitudes? Eh bien, ce serait la barbarie. C'est elle qui m'effraie aujourd'hui. La grande force de la prédication du réveil, au temps de la révolution industrielle, mais aussi de la prédication syndicale ou communiste, était justement de faire voir, de faire sentir, de faire accepter à des populations exodées, exploitées, désaffiliées, que tous étaient à l'image de l'homme, qu'ils se ressemblaient, au moins, qu'ils étaient solidaires. Et c'est bien le cœur de la pensée politique de Rousseau, puisque je parle ici en présence de mon collègue et ami Laurent Gagnebin, que de penser le contrat social comme l'endroit d'un tissu dont l'envers est tissé par la pitié mutuelle, la compassion, l'empathie. Et Les Misérables de Victor Hugo sont aussi voués à cette tâche immense de faire sentir cette empathie entre tous les êtres. Qui aujourd'hui fera sentir à tous ces humains inemployés, superflus, jetés, exclus, qu'ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'ils se ressemblent? Qui nous fera voir notre ressemblance là où nous ne la voyons plus? À quoi? À qui est-ce que je ressemble? Quelle est ma communauté? Avec qui est-ce que je me rassemble? Dans son dialogue Le Phèdre, Platon met en scène des cortèges qui se forment derrière l'image des dieux. Et chaque cortège ressemble à son dieu. À Athènes, il y a des dieux qui ont des images, justement. Ceux qui sont avec Dionysos ne ressemblent pas à ceux qui sont avec Apollon ou derrière Aphrodite. Et dans chaque procession, on appelle cela une théorie, les théors, qui sont les porteurs de l'image de Dieu, qui étaient en tête du cortège, ressemblent davantage que ceux qui sont dans la queue, qui sont prêts à rejoindre d'autres cortèges. On voit bien dans cette culture grecque une tradition d'iconicité, qui se retrouve d'ailleurs dans une sorte de christianisme orthodoxe byzantin que j'ai aussi bien connu à Istanbul. Pline l'Ancien, qui mourut lors de l'éruption du Vésuve en 79, décrit la décadence du culte romain des ancêtres dans les faux marbres, argent et or qui attirent les regards sur la matière utilisée et non sur la ressemblance en tant que telle, la ressemblance à l'ancêtre. Et il dit « Aussi sont des images de leur argent et non d'eux-mêmes qu'ils, c'est-à-dire les Romains décadents, qu'ils laissent à la postérité. » Pour cet ami de Sénèque, la ressemblance est usurpée. On permute les têtes des statues, tout est devenu vénal. Je trouve qu'on est ici très proche de notre texte de Matthieu 22, où Jésus sépare l'ordre de l'impôt dû à César sur la monnaie, puisque la monnaie est à son effigie, de l'ordre du respect dû à Dieu par ce qui est à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire les humains, mais qui du même coup n'appartiennent à rien d'autre. Les paraboles souvent commence par cette superbe formule « Le royaume est semblable à un homme qui » et puis suit une petite histoire paradigmatique de nos existences. C'est bien aussi l'art de la parabole que de décaler le regard et de faire voir des ressemblances là où nous n'en voyons pas, de nous faire voir combien le royaume est proche. Mais c'est aussi ce qu'Aristote dit de la métaphore. Elle fait voir le semblable. Elle rapproche des choses apparemment très éloignées dont elle fait voir l'étrange proximité. Elle nous fait voir le monde comme si. Elle nous fait entrer dans une sorte de jeu, dans le trouble et l'émotion de la reconnaissance. Et soudain, par la ressemblance, Télémaque reconnaît son père, les frères reconnaissent Joseph, on tombe dans les bras les uns des autres, on pleure. Le travail de la ressemblance, à travers les mots qui font reconnaître le semblable, bouleverse les catégories établies, remanie les souvenirs enfouis, libère la reconnaissance comme un présent oublié. Mais alors, si la ressemblance est partout, que reste-t-il à l'autre logique, à celle qui en interdit la représentation ? Eh bien, il lui reste l'ailleurs, l'infini, le très haut, le très bas, l'incommensurable, l'incomparable, l'innommable, l'impensable. Mais il lui reste aussi tout simplement les invraisemblables, les invraisemblances qui disent parfois bien plus sur la réalité que tous les vraisemblables, que tout ce qui ressemble trop à la réalité. Il reste la faculté de voir la différence, de voir ce qui n'est pas encore là, de faire voir l'écart, les écarts, de voir, de sentir, d'agir, de faire comme ne pas, comme dit Paul. Parce que l'important est ailleurs. Et d'ailleurs, n'est-ce pas cela qui a été donné aux humains avec le langage, avec la faculté de nommer les animaux, de différencier les êtres ? Ne serait-ce pas l'aptitude la plus élevée de cet être qui est à l'image de Dieu, précisément parce qu'il n'a pas d'image de Dieu, que de ne pas tout voir à sa propre image, que de ne pas tout rapporter à lui, à sa ressemblance. L'Exode, en tout cas, interdit la représentation, exige de faire place à la non-représentation. Et s'ouvre ainsi une autre immense tradition. Il est des peuples très mimétiques qui ont besoin de figurer la ressemblance, qui prennent presque immédiatement la ressemblance pour une réalité, qui croiraient presque qu'il y a plus encore dans la représentation que dans l'original. C'est pour partie le cas des Égyptiens anciens. Et puis il y a des peuples antimimétiques qui détestent la représentation, les ressemblances. Et pour partie, les Hébreux anciens sont de cette tradition-là. En face de l'honneur romain rendu à la ressemblance, il faut sentir l'horreur islamique face à toute ressemblance. Et c'est ce qui fait de la cité musulmane une cité sans hiérarchie, sans la hiérarchie de la généalogie, une cité entièrement sans hiérarchie de la ressemblance, une cité entièrement horizontale, une cité purement fraternelle, une cité sans image. Entre ces deux limites, presque utopiques, toutes les cultures méditerranéennes et finalement toute la civilisation occidentale a varié et oscillé, avec des moments d'iconicité où l'on aime les images et ces moments d'aniconicité où l'on s'en méfie. Et ça traverse aussi l'histoire de l'art. Écoutons bien la leçon de cette tradition. Si les frères ennemis se détestent, n'est-ce justement parce qu'ils se ressemblent trop, qu'ils se comparent, qu'ils se font rivaux par mimétisme ? Ne faut-il pas, pour faire la paix, au contraire, penser la dissemblance absolue, les singularités incomparables, irreprésentables, imprésentables ? Ne faut-il pas penser la société non seulement sous la force quasi amoureuse de la ressemblance, de l'empathie, de la compassion, du rapprochement des êtres, mais sous la force de la distanciation, du respect inconditionnel, de cette dissimilitude qui sait qu'on ne connaît jamais l'autre, qu'on ne le comprend jamais complètement. Le sentiment politique, ici, serait non pas la pitié, mais le respect. Un respect qui replace l'autre derrière le voile d'ignorance. Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Eh bien, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans un fameux commentaire biblique où il le rapproche, ce texte, de la parabole du bon samaritain, le philosophe Paul Ricoeur commente « La charité n'est pas forcément là où elle s'exhibe, elle est cachée aussi dans l'humble service abstrait des postes, de la sécurité sociale. Elle est bien souvent le sens caché du social. » L'exigence du prochain, qui ne cherche pas à savoir qui est mon prochain, mon semblable, mais à me rendre proche, se place ici au plan de l'incognito, du visage anonyme, dans sa non-figurabilité. La reconnaissance ne nous appartient pas. Ce qui est valable pour la société est aussi valable pour le couple amoureux. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, Il faut que je lui fasse une aide semblable, assortie, a fit help. Il faut bien quelques petites différences pour que le soin mutuel soit assorti. D'ailleurs, il ne s'agit plus ici du langage comme faculté lexicale de nommer les choses, mais de conversation. S'il s'agit de ne pas être seul, il faut bien que l'autre parle du monde autrement que moi pour qu'il y ait une conversation, pour qu'il y ait un couple, pour être deux. Et voyez dans le Cantique des Cantiques, le couple amoureux qui est assorti justement par toutes ces différences s'appelle, se cherche sans cesse, sans que jamais on les trouve enfin ensemble et semblablement comblés. Le Cantique des Cantiques ne se termine pas sur le happy end d'un baiser hollywoodien. Il reste un décalage, oui, un appel. Et nous continuons à remonter le fil de notre torsade pour revenir à ce par quoi nous avions commencé, de l'autre côté, la filiation. Là encore, les figures des prédécesseurs, nos ascendants, nos pères, et celles de nos successeurs, nos enfants, nos descendants, doivent être des visages infigurables, des visages de l'autre. Ce qui peut nous inquiéter, c'est justement cet effacement de toute discontinuité, comme s'il n'y avait pas la mort et la naissance qui viennent briser et bouleverser toute ressemblance. La naissance s'efface comme un voile superflu. Avec l'imagerie médicale, les parents ont très tôt une image de leur enfant qui permet de leur donner un sexe et un prénom, très vite. Mais l'impossibilité d'avoir une image, jusqu'à la naissance, d'un être si proche et pourtant inconnu dans le ventre de sa maman, jouait un peu comme l'antique interdiction de se faire une image de Dieu. C'était une réserve qui interdisait d'identifier trop tôt cet être et donner aux parents le temps de réaliser, pour le restant de leur jour, qu'ils ne savent pas qui est cet enfant, qu'il n'est pas la réalisation de leur projet, mais quelque chose d'autre qui leur arrive simplement, et comme venu d'ailleurs. Il est temps de conclure. Ce qui me frappe, c'est que les deux traditions, celle de la Genèse et de la ressemblance, celle de l'Exode et du refus de la ressemblance, ont été prises ensemble dans le canon biblique. Mieux, les deux logiques coexistent et s'imbriquent étroitement dans l'Évangile selon Matthieu, au livre 22, au livre 25, et en beaucoup d'autres endroits. Au fond, elles se corrigent interminablement l'une l'autre, elles s'aiguisent mutuellement. C'est le travail de leur ressemblance que de nous permettre d'aller plus loin dans l'empathie. C'est le travail de l'altérité que de nous permettre d'aller plus loin dans le respect. Mais on ne peut aller loin dans l'empathie que si on va loin dans le respect, et réciproquement. Le thème de l'image de Dieu, d'un Dieu dont nous n'avons pas d'image, nous fait travailler simultanément sur les deux versants pour nous faire voir l'autre comme toujours plus semblable que nous ne le croyons, et notre semblable comme un autre toujours plus autre que nous ne le croyons. Amen. Bon, écoutez, en mémoire de mon père qui est mort récemment et qui l'aimait beaucoup, je propose de chanter le cantique 415, les strophes 1, 2 et 3, « Mon sauveur, je voudrais être ».
Prendre place. Donc un grand merci à Olivier Abel, d'abord j'allais dire pour tout le travail formidable que tu as accompli à la faculté de théologie protestante pour éveiller nos esprits à un peu plus d'esprit philosophique. Je crois que c'est vraiment fondamental pour les futurs pasteurs et pour ceux qui fréquentent ces lieux, mais aussi voilà, pour les 1000 services que tu rends inlassablement à gauche, à droite, dans des conférences ou des formations, des personnes les plus invraisemblables qui te demandent de venir leur apporter tes réflexions. Donc merci beaucoup de nous en avoir fait profiter ce matin avec tant de rayonnement. Alors c'est vrai qu'on peut penser à ton père qui était donc pasteur et qui est mort il y a une quinzaine de jours. Donc on pense bien sûr à lui, à ce qu'il a apporté à la... Donc on connaît en particulier, bien sûr, la paroisse de Robinson, c'est ça, où il a été pasteur, de Paul Ricoeur. Voilà, donc une amitié aussi à garder. Alors après le culte, nous avons un moment de rencontre derrière la porte, derrière le verset qui nous annonce la vie éternelle, un moment de partage fraternel, l'occasion peut-être de parler avec Fabien, s'il restera là, ou avec Olivier, et puis avec d'autres, peut-être, dont vous voyez le visage. Alors c'est vrai que dans le métro, ça ne se fait pas d'aborder les gens, mais dans l'oratoire, on peut le faire, puisque les gens qui sont ici ou qui je veux dire, traînent un peu autour de ce petit pot fraternel, eh bien, sont là pour qu'on puisse bavarder. Alors demain soir, il y a le dernier cours de grec pour les débutants, grec biblique pour les débutants, qui ne le sont donc plus, puisqu'ils ont suivi toute l'année un cours de grec biblique avec Patrice Rollin. Et donc l'année prochaine, ils vont intégrer le groupe des progressants, laissant la place à d'autres, peut-être à vous, si vous désirez donc vous initier au grec biblique. Vous pouvez, pendant l'été, tranquillement, car ce recommencera début octobre, eh bien, prendre contact. Vous avez l'adresse de Patrice soit sur notre bulletin qui est à votre disposition sur la table à la sortie, soit sur le site internet, bien entendu. Dimanche prochain, culte du 1er juillet avec mon cher collègue James. Et puis, bon, bien sûr, tous les dimanches que Dieu fait, si je puis dire, eh bien, il y a un culte ici même à 10h30, mais il y a une nouveauté cette année pendant l'été. Comme il n'y a pas d'autres rencontres, puisque tout le monde est un peu à gauche, à droite, en vacances, nous avons prévu avec James de faire un court moment d'études bibliques, finalement, tous les mercredis de juillet et août, aux 4 rues de l'Oratoire, au rez-de-chaussée, une heure d'études bibliques, voilà, autour d'un café. Donc ceux qui désirent ouvrir la Bible pour la première fois, perfectionner cette lecture, vous pouvez venir à ce temps de partage tous les mercredis. Vous avez le programme sur la table à la sortie aussi et dans notre bulletin. En ce dimanche, nous célébrons la scène comme une fois par mois. Et tous sont invités à participer à la scène, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance à telle ou telle église. À partir du moment où vous entendez l'appel du Seigneur et vous désirez lui répondre oui par ce geste de prendre le pain ou de boire dans la coupe, eh bien, vous pouvez bien sûr participer à ce repas. Alors nous nous approcherons en table successive d'une cinquantaine de personnes. Le pain et le vin passent de proche en proche. Si vous ne désiriez pas communier aujourd'hui, vous pouvez soit rester à votre place tranquillement, soit vous placer quand même dans le cercle et puis passer le pain et le vin à votre voisin. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. Ce temps d'offrande joyeuse et libre est une louange à Dieu et un témoignage visible de notre engagement.
Frères et sœurs, au moment de partager ce repas, nous éprouvons le besoin de faire monter notre prière. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Bien précisément, voici les tiens rassemblés devant toi. Nous avons entendu ta parole, ô Éternel, et nous frappons à la porte, sois notre hôte. Amen.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, avec le royaume, dans le royaume de mon Père. »
Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, par l'action de ton Esprit, donne-nous de recevoir dans le partage de ce pain et ce vin la présence du Christ. De recevoir à travers ce pain et ce vin une nourriture pour entrer en communion avec toi, tous membres d'un même corps, unique, néanmoins semblable, responsable, solidaire, respectueux. Nous pensons devant toi et grâce à toi, à ceux que ton amour nous appelle à garder nous-mêmes. Et c'est en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, que nous osons te prier comme notre Père commun à toutes et tous, avec cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour la multitude, pour le pardon de tous.
L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai, je demeurerai dans la demeure de l'Éternel pour toujours.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la paix du Seigneur ressuscité.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et chacun et chacune d'entre vous peut maintenant recevoir la bénédiction de Dieu sur son existence tout entière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Demeure par ta grâce avec chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur. Amen.